Bonsoir à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour ce live Q&A, question and answer, question-réponse en bon français, en ce beau dimanche 18 avril 2021. J'espère que vous allez bien. Le principe de ces sessions Q&A, vous posez des questions et puis j'essaye d'y répondre. Donc cette fois, ce soir, je suis un peu live partout. Je suis live sur la page Facebook, sur mon profil perso Facebook, sur YouTube, sur Twitch. Et qu'est-ce que j'oublie? Non, je crois que ces quatre-là, c'est déjà pas mal. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est le but du jeu. Histoire de briser un peu la glace ce soir, je vais vous faire un petit peu de son avec cette Super Strat, la classique sœur. Et le matos que vous allez entendre, c'est ce que vous voyez ici à l'écran. Je vais le mettre un petit peu plus haut, voilà, ça sera plus joli. Donc l'émulation de son vient depuis la Strymon que vous apercevez ici, donc qui est en réglage de type Fender. Et il y a l'Ultratap qui est ici, qui va bientôt partir en tournée matos. Hein, donc voilà, pour les gens qui sont abonnés à la chaîne guitare, vous avez juste à lever la main sur le forum privé pour dire oui, moi j'ai envie de tester l'Ultratap. Et puis bah, je l'enverrai au premier backstager qui l'enverra, qui la gardera pendant une semaine et ensuite qui l'envoie au suivant et ainsi de suite. Donc faisons un petit peu de son et surtout donc posez toutes vos questions. Là j'ai à peu près tout dans la chatroom, donc voilà, je vais y répondre par la suite. Voilà, le délai ping-pong, ça fonctionne toujours super bien. Donc si vous écoutez ça sur des moniteurs ou au casque, normalement vous avez un délai qui passe d'un côté de l'autre, sur lequel il y a 4 répétitions. Alors vous ne voyez pas très bien parce que la pédale est très très shiny et très brillante, mais ce potard permet de régler le nombre de répétitions. Donc si je te donne un coup de médiator, vous allez entendre 4 notes en fait. Et là, en fait, non, il y en a 3. Elle n'est pas sur 3, elle est sur. Elle est pas sur 4, elle est sur 3, pardon. Non, il y en a 2 d'ailleurs. Voilà. Je peux augmenter si je passe à 4 là. Voilà. Et en fait, il reste sur la même subdivision de temps. Mais il place 4 répétitions au lieu de 2 tout à l'heure. Ta-da-da-da. Et si je baisse, hop. 1, 2, 3, ok. Et si je baisse encore? Voilà, là il y en a 2, mais c'est toujours sur le même temps. D'où là j'ai le truc en croche pointée à la The Edge. Je change pour ce paramètre, ce preset qui est assez flyé. Là, je coupe le micro pour que vous ayez que le son de guitare. Voilà, j'adore ce preset. Donc, en fait, ce qui se passe avec ce preset-là, c'est que l'attaque est complètement gommée. Donc, c'est pour ça que vous n'entendez pas le coup de médiator. Le son monte, il monte assez fort et ensuite il s'arrête au bout d'un moment tout seul, en fait. Hein. hop, et il s'arrête complètement net au bout d'un moment, ce qui est assez rigolo, donc parfait pour faire des nappes, etc. Et le son direct, c'est ça, hein. Voilà, donc on est très très loin. Voilà, donc ça, c'est une pédale qui partira en tournée matos très bientôt. Actuellement, il y en a trois des tournées matos qui sont en cours. Je peux vous montrer ça tout de suite à l'écran. Et le petit tuc-tuc que vous venez d'entendre, c'est Christophe Piponnier qui vient de rejoindre la room dans Clubhouse. Donc Christophe, ravi de t'accueillir sur le... dans le live, et si tu veux causer dans le poste, faire une petite intervention, n'hésite pas. Alors, je vous montre la page de la tournée matos sur la chaîne guitare. Voilà. Donc, le principe, hein, comme je vous ai expliqué au début, le matériel. Donc, exemple, cette pédale UltraTap, elle est possible, enfin, c'est possible de la tester pendant une semaine gratuitement chez soi, si on est abonné à la chaîne guitare avec la formule 100% contenu plus forum privé, c'est-à-dire la formule à 10 € par mois ou 120 € par an. J'envoie la pédale au premier backstager qui la teste pendant une semaine gratuitement, qui l'envoie au suivant, et ainsi de suite. Et actuellement, il y a déjà trois pédales qui sont en train de tourner. La Helena Guitar Effect Mark III Patrick Ronda, la distorsion Made in France, la Black Hole et la Micro Pitch de chez Eventide. Et donc, il y aura une troisième pédale Eventide qui va partir en tournée, l'UltraTap qui est ici. Voilà, donc si des fois vous vous demandez, mais à quoi ça peut bien servir un abonnement à la chaîne guitare? Alors, la première chose, c'est d'accéder à la totalité du contenu. Il y a un peu plus de 2500 vidéos, ça c'est le premier truc. La deuxième chose, quand vous prenez la formule à 10 € par mois ou 120 € par an, c'est d'accéder au forum pour discuter chiffon, musique, guitare avec les autres passionnés de guitare. Christophe est un exemple, voilà, qui est là dans la room avec moi sur Clubhouse. Et j'en vois aussi plusieurs qui sont là dans la chatroom. Jean, Ludovic, je crois que... Et Kenan, voilà. Donc j'en vois plusieurs qui sont ici en live, qui pourront répondre à vos questions et témoigner à quel point ils aiment ça d'être... abonné à la chaîne guitare. Et donc, un autre avantage de la formule de l'abonnement, c'est la possibilité de participer au tournée matos. Oh, puis je viens de voir qu'il y a Sully Bud Spencer, alias Julien, qui s'occupe des micros Epcat. Donc voilà, je suis très très honoré de t'avoir sur le live, Julien. Puis j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer pour de vrai un de ces jours pour faire une interview, pour te parler, pour parler de ce que tu fais actuellement avec Epcat, donc les micros boutiques français bien bien connus. Et j'ai une guitare ici qui est équipée avec des micros sériels Epcat que je trouve super bien. C'est un peu ma Strat, c'est une Partcaster, mais c'est alors Monster Relic et équipée donc avec des micros sériels que je trouve top moumoute. Voilà, alors est-ce qu'il y a des questions? Je jette un petit coup d'œil dans la chatroom. Il y a David Land qui me demande, j'espère que tu as apprécié mon album. Alors écoute, j'en ai fait juste une première écoute, parce que je pense que tu m'avais envoyé un lien d'écoute il y a quelque temps, et tu m'avais envoyé le CD. Je t'avoue que c'est ce que j'ai déjà dû te dire par email, j'ai une pile mais vraiment énorme de CD recevoir, hein, à écouter, pardon. Donc du coup, ça me prend pas mal de temps en plus à passer au travers. J'en profite d'ailleurs pour spécifier un peu la méthode que moi j'utilise depuis le début, hein, sur la chaîne guitare pour réaliser des interviews. Il y a en fait trois possibilités, trois sources, on va dire, d'interviews que j'utilise pour faire des interviews sur la chaîne guitare. Il y a les gens que moi je contacte en direct ou que je croise sur des salons, sur les festivals, etc. Alors en ce moment, hein, depuis un peu plus d'un an, je vous cache pas que c'est un petit peu calme. Mais en tout cas, c'est la première méthode. C'est moi qui fais la démarche de contacter les gens. La deuxième méthode, et je vous donne les trois méthodes qui n'est pas dans un ordre particulier, parce que ça varie en fait en fonction des périodes. La deuxième période, c'est les attachés de presse avec qui je travaille, dont c'est le métier de faire la promotion des artistes avec qui y travaille, et qui donc qui soit m'envoient des CD à écouter, soit des liens d'écoute, et qui me disent, bah tiens, il y a tel musicien qui vient de sortir un album. Alors des fois c'est des gens connus, des fois c'est des gens qui sont pas connus. Donc voilà, je fais mon marché là-dedans, j'écoute ça. Et la troisième source, c'est de plus en plus, ces dernières années, ça a beaucoup augmenté. Ce sont les musiciens eux-mêmes qui me contactent, qui me disent, ah bah tiens, je viens de lancer un projet, ou j'ai un projet depuis X temps, voilà, j'ai sorti un album et compagnie. Et donc, la réponse que je fais toujours, c'est j'écoute tout ce que je reçois, et après, moi, je fais mon marché là-dedans, qui est un choix, et je le précise bien, hein, parce que c'est toujours un peu délicat de dire aux gens, écoute, ouais, j'ai reçu ta musique, mais j'ai pas, ça m'a pas touché, etc. Enfin, je trouve que c'est un message à envoyer qui est assez dur, en particulier pour les artistes qui ont parfois mis du cœur, des tripes, beaucoup de moyens aussi pour sortir un album, mais je prends toujours la précaution de dire que c'est mon avis qui est tout à fait subjectif, voilà, avec mon parti pris de guitariste, voilà. Donc j'essaye de couvrir tous les styles de musique sur la chaîne guitare, donc du classique au métal, blues, rock, jazz, manouche, flamenco, enfin bon, à partir du moment où il y a de la guitare, ça va m'intéresser. Alors guitare, basse, j'ai même fait ukulélé, j'ai même fait banjo aussi une fois ou deux, voilà, mais c'est essentiellement guitare et pas mal de bassiste. Quand j'ai l'occasion d'avoir un bassiste qui me passe sous le coude, je suis toujours très content, très très varié en termes de style, et pas que de la guitare de guitariste. Alors je m'éclate, hein, à faire des interviews de méga musiciens ultra techniques et compagnie, mais j'ai autant de plaisir à vous proposer une interview. Par exemple, il y a quelques temps, l'été dernier, j'ai fait une interview avec Diane Tell. Et voilà, alors qui joue très bien de la guitare, mais qui n'est pas connue comme une virtuose. Et ça avait été une très très chouette rencontre. On peut jeter un petit coup d'œil, tiens, sur l'interview avec Diane Tell. Elle avait sorti un album qui s'appelle Haiku. Moi qui m'avait beaucoup plu, et alors c'était en, ouais, j'avais publié l'interview en décembre 2019. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Elle était venue avec une guitare Alain Keguiner, donc voilà, un luthier français, Cocorico. Et son album s'appelait Haiku, voilà. Et honnêtement, moi, je me suis régalé à faire cette interview. Ça a duré assez longtemps. Voilà, une quarantaine de minutes. C'était top. Et l'année dernière, elle passait en fait chez Franck Cheval, chez le luthier Franck Cheval, pour récupérer une guitare. Parce qu'elle a plusieurs guitares de chez Franck. Et donc, j'avais proposé à Franck, puisque à l'époque, on était dans la première vague de confinement, je lui avais proposé de faire une interview en direct avec lui. Puis il m'avait dit, ah mais écoute, si tu veux, il y a Diane qui passe bientôt, on pourrait le faire avec elle. Ah, je dis, bah écoute, ouais, mais tu sais quoi, s'il y a Diane Tell qui passe chez toi, moi je saute dans un TGV, je viens. Et donc du coup, j'étais allé passer 2 jours chez Franck, et on avait enregistré cette interview guitare à la main avec Diane Tell. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que mon amour de la guitare est vraiment au sens très très large, hein. Toutes les musiques vont m'intéresser à partir du moment où il y a de la guitare à l'intérieur. Mais c'est pas forcément que de la musique instrumentale de virtuo, tout le côté songwriting, blues, rock, jazz, enfin voilà, tous les styles. Alors dans les classiques, j'ai fait des virtuoses, des Thibaut Covin, Emmanuel Rosfelder, Thibaut Garcia, Heike Mathiesen, voilà, des gens qui ont des niveaux incroyables. Mais donc voilà. Hein, on s'entend que c'est tous les styles de musique, et quel que soit le genre, pas forcément de la musique de guitariste, hein, j'en consomme, hein, mais pas que ça. Et puis donc toutes les dimensions du merveilleux monde de la guitare, bien sûr, des interviews de musiciens, mais aussi des interviews de luthiers. Vous avez vu à l'instant un exemple d'une interview que j'ai pu faire chez Franck Cheval, des interviews de fabricants d'ampli, de fabricants de pédales, des visites d'usines, des visites d'ateliers, etc. Donc c'est couvrir tout le merveilleux monde de la guitare. Voilà. Je regarde dans la chatroom, est-ce qu'il y a des questions? Alors Thierry Autret me demande... Pédale de volume, faut-il prendre haute ou basse impédance? Exemple, Bose propose les deux. Eh bien, écoute, je ne sais pas du tout. Là, honnêtement, je ne sais pas. En général, les guitares électriques standards, ce sont de la haute impédance qu'il faut. Voilà, c'est rarissime, hein, les guitares électriques qui ont des micros basse impédance. Donc, à choisir, je pense que c'est plutôt haute impédance, basse impédance. Est-ce que c'est plutôt peut-être des pédales de volume pour clavier ou autre type d'instrument? Voilà, je pense que Google est ton ami. J'ai pas de réponse toute faite par rapport à ça. Alors, Or me demande, salut la chaîne guitare, comment séparer les pistes du micro et de la guitare en une seule entrée sur OBS Studio, car moi j'ai écrit un... Ouh, ah oui, alors là, enfin là, ça va être compliqué. Alors, OBS, pour ceux qui l'ignorent, c'est un... Ça veut dire Open Broadcast Software, je crois. C'est un logiciel qui permet de faire du stream en direct, qui permet aussi d'enregistrer les vidéos et qui permet de gérer le multicam, etc. Moi, tous les premiers lives sur la chaîne guitare, je les ai faits avec OBS, avec l'ordinateur que vous ne voyez pas, mais en tout cas qui est devant moi aussi, vous le voyez un petit peu, voilà, avec un ordinateur portable tel que celui-là, alors pas celui-là, parce que c'était un autre à l'époque, mais j'ai fait des lives avec celui-là. Je me sers plus du tout de OBS maintenant parce que j'ai remarqué que il fallait vraiment avoir un ordinateur très puissant, qu'il soit PC ou Mac, pour avoir une bonne stabilité. Et depuis quelques temps, j'utilise l'ATEM Mini Pro de Blackmagic Design, qui est pour moi quelque chose de hyper stable et qui a le bon goût d'avoir une prise Ethernet derrière et sur lequel je peux envoyer toute le son que j'ai sur la console. Alors, je peux vous montrer un petit peu en déplaçant la caméra. Je vais essayer de vous faire un petit angle rapidos, puisque je sais que c'est un sujet qui passionne beaucoup la foule en délire. Voilà, je vois pas. Alors, je vous montre. Voilà. Alors là, la mise au point, elle est dans les choux. Voilà. Ici, il y a mon téléphone sur lequel il y a Clubhouse qui est ici. Je vais le mettre en dessous. Là, il y a la chatroom de mon ordinateur. Là, il y a la console de mixage sur lequel est branché. Vous voyez, là, il y a ma voix qui est ici, qui bouge. Le boîtier noir que vous voyez derrière ici, c'est l'ATEM Mini Pro. Donc, qui permet de faire la diffusion vidéo. Donc là, il y a les différents changements de caméra. Si j'appuie ici, hop, je repasse sur la caméra principale. Et là, c'est la caméra qui est ici, dans laquelle je passe la main. Et donc, tout le stream se fait depuis ce boîtier directement. D'accord? Parmi le fouillis de câbles que vous voyez derrière, il y a un câble Ethernet qui part vers la box, vers le petit hub Ethernet qui est tout au fond là-bas. Et c'est lui, en fait, qui fait le stream directement. Ce qui permet que ça soit le boîtier lui-même qui fasse tout le boulot le gros boulot du stream vidéo. Et ça, c'est ça qui demande beaucoup de puissance. Et à l'époque où je le faisais donc sur le Mac, puisque moi je suis sur la plateforme Mac, ça fonctionnait avec OBS, mais voilà, ça demande beaucoup de puissance et j'avais très souvent des problèmes d'instabilité avec l'ATEM Mini Pro. Honnêtement, j'ai jamais eu un pépin, c'est hyper stable, ça permet d'enregistrer la vidéo, ça diffuse en 1080p avec le son en stéréo. Honnêtement, roi du pétrole. Et quand je fais un live, j'ai juste à m'occuper de faire le mariole, voilà, à changer de caméra, à diffuser l'écran, à diffuser le, voilà, à montrer ça. Je peux même faire du picture in picture, des choses comme ça. Et l'ordinateur, donc que je vous ai montré tout à l'heure, lui, il ne sert que de pilotage en fait. Il fait rien du tout de très très musclé en termes de puissance. Donc, vous n'avez pas besoin d'un ordinateur hyper puissant. Donc, voilà, longue réponse pour te dire que je vais avoir du mal à te répondre par rapport au OBS. Le seul conseil que je peux te faire, c'est regarde les tutos qui sont sur OBS ou fais une recherche spécifiquement par rapport à ton problème. Parce que une chose est sûre, c'est qu'on peut tout faire avec OBS. Ce qui est un peu compliqué, c'est de gérer à la fois le flux audio et le flux vidéo, de choisir ce qu'on injecte, etc. Et que tout ce petit monde soit synchronisé. Donc ça, faut jouer dans les paramètres. Et OBS, encore une fois, c'est un logiciel qui est très puissant, mais qui est pas super ergonomique et qui est, voilà, faut vraiment plonger profond dans les paramètres pour s'en sortir. Alors, Louis TH me demande plutôt Vox ou la Crybaby de chez Dunlop en termes de voix. Là, écoute, honnêtement, c'est franchement une question de goût, hein. Moi, à l'époque où j'utilisais une Wah-Wah, bah, j'étais plutôt team Crybaby, puisque j'étais fan de. Enfin, je suis toujours fan d'ailleurs de Satriani, donc je pense que c'était une Crybaby qui l'utilisait à l'époque. Mais la Vox est super. Il y a aussi chez Morlaix, la Bad Orchid de Steve Vai. Enfin, là, c'est franchement une question de goût. Et le son de Wawa, enfin, ça va enfin, évidemment, c'est un filtre hein, qui est plus ou moins pointu. Donc, vous allez faire varier la fréquence centrale. Donc, du coup, ça va faire Wawa comme ça quand vous allez déplacer la pédale. Si le filtre, il est très, très pointu, vous allez avoir un gros boost de son. S'il est très large, vous allez toucher une plus grande plage de fréquence. C'est ce qu'on appelle le facteur Q. Hein, donc, c'est un terme d'électronique pour dire plus le Q il est élevé, plus votre le filtre il monte très très haut. Si le Q est très très large, il touche plus de fréquences. Donc là, voilà, c'est franchement une question de goût, hein. Il n'y a pas de pédale meilleure que d'autres. Alors, il y a des pédales Wah-Wah qui sont meilleures que d'autres parce que, bon, faut pas oublier que sauf pour les pédales super haut de gamme qui sont avec des capteurs optiques, c'est donc une crémaillère qui fait tourner un potard. Donc, c'est comme si vous étiez sans arrêt en train de faire ça d'un côté ou de l'autre sur votre potard de volume. Au bout d'un moment, votre potard, il va être naze, il va faire un mauvais contact, etc. Donc, c'est souvent des choses qui sont un petit peu fragiles. Voilà, Or me dit, ton interface audio, c'est une Focusrite Scarlett 212. Écoute, excellente interface, une petite interface qui n'est pas très chère, qui coûte, je pense, dans les 200-250 euros, un truc dans le genre, et qui fonctionne très bien. Donc, tu devrais pouvoir fonctionner avec ça sans problème. Et Louis me demande, je me suis tourné vers la Crybaby aussi, très hâte de l'essayer. Clairement, c'est un standard hein, de la Crybaby. Moi, j'en ai deux dans un coin là-bas. Le problème, enfin, c'est pas le problème. L'inconvénient de la Wah-Wah, c'est que bah, c'est une autre dimension de son qu'il faut maîtriser. Et si on fait pas gaffe, on va assez vite faire wah 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 wah. Enfin, ça, du coup, ça va être super chiant. Autant on prend une auto wah à la limite. Donc, ce qui est beau, et les grands joueurs de wah, que ce soit les Clapton, les Hendrix ou les guitaristes contemporains qui continuent à s'en servir, vous remarquerez qu'ils s'en servent de manière en essayant d'imiter la voix humaine, par exemple. Donc, en ayant des modulations qui sont peut-être pas forcément calquées sur le rythme. Alors il y a Voodoo Child, Slight Return de Jimi Hendrix. Donc là où forcément vous allez être timé sur le son, mais il n'y a rien qui vous empêche à faire varier le sweep, le balayement, le balayage plutôt, le balayage de fréquence de la wah-wah plus lentement, voire de la mettre complètement fixe, ce qui est le cas par exemple pour obtenir le son de bien connu de Money for Nothing de Mark Knopfler. Excusez-moi de Dire Straits, puisque c'est ça comme ça qu'il a obtenu ce son. Normalement, je crois avec un Soldano, avec pas mal de gains, une Les Paul et puis une Wah-Wah bloquée à mi-parcours. Voilà. L'intro de Yankee Rose, évidemment. Excellent exemple de Bruno Lefebvre dans YouTube. Effectivement, voilà, c'est typiquement sur l'intro de Yankee Rose. Donc, c'est le morceau du groupe de David Lee Roth. Donc, le David Lee Roth Band à l'époque où il y avait donc Billy Sheehan à la basse et puis Steve Vai à la guitare. Yankee Rose, voilà, c'est il y a une sorte de dialogue entre David Lee Roth qui commence à chanter et puis Steve Vai à la guitare. Et puis, il fait comme ça en modulant la note avec la wah-wah. Absolument, tout à fait. C'est comme ça que ça se passe. Les classiques de crime comme White Room sont incroyables en termes de maîtrise de la pédale. Voilà, c'est pour ça que je citais Clapton effectivement comme maître, parce que il varie beaucoup la modulation qu'il fait avec la wah-wah. Et si vous ne faites pas gaffe, ça va vite être soit fatigant pour les gens qui vous écoutent, ou alors très 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 monotone. Et c'est un effet, bah, effectivement, voilà, qui a été hyper en vogue dans les années 60, 70, etc. Un peu moins maintenant, mais néanmoins, qui est top mood. Après, il faut penser à la désactiver de temps en temps. Je sais que c'est souvent quelque chose qu'on reproche à Kirk Hammett de Metallica, par exemple, d'être très, très porté sur la wah-wah et de mettre de la wah-wah dans tous les coins sur tous ses solos. C'est aussi une sorte de béquille, hein, genre quand vous savez plus trop quoi jouer, que vous avez encore, je sais pas quoi, 12 mesures de solo devant vous, paf, vous enclenchez la wah-wah pour varier un peu les plaisirs. Ce qui est bien aussi, puisque ça change la couleur. Il y a Christophe qui dit M l'utilise beaucoup. Bah voilà, et M, c'est clairement un musicien, enfin un super guitariste, un super musicien, un super guitariste qui joue très bien guitare acoustique, guitare électrique et compagnie, et qui a une main droite d'enfer, qui a un sens du rythme extraordinaire. Et ça, avec la wah-wah, évidemment, ça marche très très bien. Alors, il y a Kenan qui me demande, est-ce que j'ai finalement cédé pour la basse short scale que je lorgnais sans vouloir me pousser au vice? Alors, écoute, non, tu ne me pousses pas du tout au vice, Kenan, et tu sais que je me pousse tout seul assez bien. Alors, c'est vrai que l'idée de la short scale, c'était d'acheter. Voilà, je vais essayer, hop, de faire quelque chose, de vous montrer ça à l'écran. Si je tape Squier, Mustang Bass, Classic Vibe. Et que je passe sur les images, je vais vous montrer ça. Voilà, ce que j'étais en train de regarder là depuis quelques temps, c'est ce modèle-là, donc qui est la Mustang Bass, alors qui est une basse qui existe depuis très longtemps et qui vient de ressortir, que Fender vient de ressortir et sous sa marque et sous sa sous-marque Squier. Pourquoi short scale? Parce que la longueur du diapason, au lieu de faire 34 pouces, elle fait 30 pouces, donc elle est un peu plus petite. Alors, j'ai fait ce geste-là avec la main, mais en fait, il faut savoir que quand vous passez de 30 à 34 à 30 pouces, c'est pas 4 pouces que vous gagnez en tête de manche là où vous mettez la main gauche. En fait, c'est vraiment des deux côtés que le diapason se rétrécit, parce que la 12e case qui est au milieu, elle bouge pas de position. Donc, ça change évidemment le son de la basse. Ça change aussi. Bah, c'est plus facile pour nous guitaristes, parce qu'on a moins à aller chercher à 2 km le manche de la basse. Et il se trouve que les trois derniers bassistes que j'ai interviewés, puisque comme je vous disais, je fais dès que je peux des interviews de bassistes, les trois derniers bassistes que j'ai interviewés sur la chaîne guitare sont venus avec des short scales. Alors le premier récemment qui est venu au showroom, il s'appelle Antonin Rubata. Voilà, je vous montre mon écran. Antonin Rubata, ici, et il est venu justement avec une Mustang. Par contre, une Mustang japonaise et non pas une Squier. Et croyez-moi, il avait un son de mammouth qui était franchement top mammouth. Et par la suite, j'ai reçu Marcello Giuliani, voilà, qui est venu aussi avec une basse short scale, alors une basse d'un luthier de Chicago que je connaissais pas d'ailleurs, qui s'appelle Serec, je crois. Serec Basse, on va regarder ça en même temps sur les internets. Serecbasses.com. Alors, il fait pas que des short scales, mais quand même pas mal. Et c'était. Alors, non, je ne veux pas m'inscrire à la newsletter. Bass My Model, je crois que c'est la Midwestern, il me semble. Et il se trouve que les deux bassistes en question, donc Xavier Zoli et puis Marcello Giuliani, sont venus avec ce modèle-là de basse. Et là, c'en était trop. Je me suis dit, bon, trois bassistes de suite qui viennent avec une basse short scale. il faut absolument que j'en ai une. Après, l'idée, loin de moi l'idée de devenir bassiste, parce que c'est quand même un instrument à part entière, mais pour jouer des petites lignes de basse de temps en temps, peut-être même pour accompagner un musicien, parce que je fais très souvent ce que j'appelle des interviews guitare la main, puisque c'est un peu une de mes spécialités sur la chaîne guitare. Encore une fois, on va retourner sur le site web. Vous pouvez aller sur Interview et vous choisissez ici l'option guitare à la main. Et là, vous allez voir toutes les interviews guitare à la main que j'ai eu l'occasion de réaliser sur la chaîne guitare. Alors, il y en a un que j'ai fait à distance, donc Greg Howe, etc., Marc Lethierry, Régis Savigny, il y a pas très longtemps. Voilà. Alors, à chaque fois, ce sont des pros, donc je serais un petit peu ridicule de jouer de la guitare avec eux. Mais par contre, jouer une ligne de basse simple pour les accompagner, ça pourrait carrément être une idée. Voilà, donc du coup, je me suis dit, tiens, ça serait pas mal. Et puis aussi, il peut très bien arriver que, y a un musicien ici qui vienne, les mains dans les poches et qui n'ait pas, d'instrument. Ça arrive régulièrement, donc du coup, au moins, j'aurai une petite basse pour faire ça. Alors, Nono de Trust, l'utilise pour les solos pour passer au travers du mix. Ouais, tout à fait. Là, tu reviens à la question sur la wah-wah. Et en fait, effectivement, ça marche très bien à ce moment-là parce qu'on booste en fait des fréquences qui sont en général très médium en plein dans des fréquences de la guitare et on coupe un peu ce qui est en avant et en arrière et pour avoir quelque chose qui est très pointu et qui marche très bien sur le son solo. Alors oui, alors Mathéo, tu me dis, alors je lis la réplique de Mathéo par rapport au son de Money for Nothing. Alors Money for Nothing, c'est deux micros hors phase dans le studio avec un lanné à fond. Apparemment, à hasard, l'ingé son ayant oublié de désactiver le micro batterie sur la scène plexi à fond plus wah. Écoute, j'ai lu cette histoire. Écoute, je pense la vérité, c'est qu'on ne sait pas. Hein, on n'y était pas dans ce studio. C'est pas impossible. Et c'est vrai qu'on peut très bien avoir avec deux micros qui sont en phase, donc sur le baff, mais un à des distances différentes. On peut tout à fait avoir des sons qui sont complètement différents. Après, tu mets, en tout cas dans ce que tu mettais, que c'était scène sur la scène, c'était plexi à fond et plus quoi. Donc honnêtement, le son de wah-wah, il est là. Après, est-ce qu'il y avait en plus autre chose au niveau de la prise de son? Ça, c'est clair. Et le coup de ah bah tiens, on a laissé un autre micro dans le mix, on a oublié de le couper, etc. Ça a donné ça. Ça, tous les albums des légendes sont remplis de ça. À une époque, ils mettaient quelques micros, puis tous les musiciens jouaient ensemble. Donc du coup, il y avait forcément de la repisse. Et peut-être c'était moins propre d'un point de vue technique, mais c'était aussi ce qui créait l'ambiance et la qualité du son, voire qui changeait complètement le son de guitare. Hein. Il y a un test que je vous encourage à faire, c'est d'écouter Back in Black de AC/DC et de le mettre très fort au début. Mais faites attention après, parce qu'après ça commence très fort. On entend Phil Rudd, donc le batteur, qui fait le décompte. Et moi, j'avais jamais remarqué jusqu'à ce qu'on me le fasse remarquer, qu'on me dise, tiens, mais écoute à fond le début de Back in Black, tu vas voir qu'on entend Phil Rudd dire, enfin, faire le décompte. Donc, typiquement, son décompte à lui, c'était passé dans les micros de batterie qui n'étaient pas coupés à ce moment-là et ça aurait pas dû, quoi. Donc voilà, donc et ça c'est. Alors moi ça m'arrive ici au showroom de faire de la prise de son. Alors, à titre relativement modeste, hein, bien sûr, parce que ici c'est le showroom de la chaîne guitare, hein, c'est pas un studio d'enregistrement, mais ça m'arrive très régulièrement. Bah, par exemple, mercredi dernier, j'avais Laurence M et puis Joëlle Gombert qui étaient là. Donc, elle c'était chanteuse. Joëlle, il y avait donc un Neumann KM184 qui était devant la guitare, plus la sortie préamp. Donc, du coup, pour le son de guitare, il y avait en fait les deux sorties principale qui était le Neumann KM184 plus la sortie préamp, mais il y avait aussi un petit peu de son de guitare qui passait dans le micro-voix de Laurence. Et donc forcément, le son que j'ai envoyé en direct ou alors que j'ai remixé par la suite, c'était forcément un mélange de ces trois sources, même si évidemment il y avait relativement peu de signal de guitare dans le micro-voix de Laurence. Mais ça, c'est typiquement les contraintes auxquelles on est astreint. Et c'est d'ailleurs pour ça que les bois-boîtes comme l'iridium sont très très pratiques, puisque ça, l'iridium, c'est marqué dessus d'ailleurs, amp and IR cab. Donc ça vous fait un ampli dans la boîte qui se règle tout à fait comme un ampli. Là, c'est le gain, là, c'est le volume, là, c'est les trois égalisations. Et puis ici, on a une reverb room. Et puis là, on a le petit interrupteur qui permet de passer d'un son Vox. Fender, pardon, Vox ou Marshall, et puis l'autre interrupteur qui est ici sur la droite qui permet de changer les réponses impulsionnelles. Et donc vous vous branchez là-dessus, vous pouvez vous mettre directement stéréo sur la table de mixage, et là vous avez un son d'enfer, évidemment sans aucune repiste ou quoi, puisque tout se passe à l'intérieur de la boîte. Et ça, ce sont des matériels qui sont super performants, non? Alors ça, c'est un format boîte. Vous avez des choses un peu plus encombrantes, style en rack. Alors tout ce qui est fractal, Helix, qui est plutôt pédalier, mais qui existe aussi en rack, Kemper et compagnie. Et ça, c'est évidemment, voilà. C'est pour répondre à ces solutions-là, à ces problèmes-là de prise de son, et pour avoir quelque chose de complètement isolé. Et du coup, le paradoxe, c'est que sur cette pédale, voilà, vous le voyez ici, là, ce bouton, il est marqué Room, en fait, et il permet de rajouter comme si vous aviez un micro d'ambiance dans la pièce. D'accord? Parce que si jamais vous ne le faites pas, vous avez un son qui est hyper sec. Alors, je peux vous le faire écouter. Alors là, le micro Room. Il est très la room, elle est baissée parce que elle est branchée en mono sur cette pédale, et c'est la pédale qui est branchée en stéréo ou la console. Mais si je coupe la reverb de la console et que je coupe mon micro voix, et là vous voyez que le micro room, le réglage room, il est à zéro, on a un son de guitare qui est hyper sec, hein. Donc là, c'est comme si vous jouiez dans une pièce anéchoïque, c'est-à-dire sans aucune réflexion, ce qui forcément n'existe pas dans la nature, sauf si vous êtes dans des chambres, dans des studios ultra spécialisés. Même si vous êtes dans une pièce comme ici au showroom, où il y a de la moquette, du tapis par terre, etc., il y a quand même une petite réverb résiduelle. Et donc si je monte le réglage de room, alors là, il va pas être super joli parce que je le passe en mono, mais ça va vous donner ça. Voilà, donc c'est typiquement à ça que servent les réglages de room, pour recréer en fait le son de la pièce. Voilà, alors que en studio, bah, ce que vous feriez, vous mettriez un vrai micro devant votre vrai ampli, un micro peut-être un peu plus loin dans la pièce pour justement capter le son de cette pièce. Et là, on tombe dans le vrai métier des ingé-sons, à savoir capter le son de la pièce, utiliser la pièce comme un instrument, ou au contraire entendre le moins possible la pièce pour qu'on n'ait que le son brut, et ensuite retravailler soit avec console, soit avec l'ordinateur pour ajouter des effets et compagnie. Et ça, c'est il y a des gens qui ont fait des carrières entières, évidemment, en tant qu'ingénieur du son, producteur, preneur de son, parce que c'est hyper compliqué. Et c'est là où, encore une fois, où les outils comme la Strymon bah, de nos jours sont top moumoute, parce qu'on peut avoir du super son très 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 simplement et très facilement. Alors Bruno Lefebvre nous parle de Phil Collins avec le talkback de la SSL. Alors effectivement, voilà, typiquement, alors c'est sûr, le morceau, c'est le morceau face value, hein, je crois, hein, c'est ça, hein. Donc le talkback, c'est sur les grosses consoles, il y avait un micro qui était mis pour pouvoir parler aux musiciens qui sont dans la salle d'enregistrement, et qui sont juste des micros qui sont là pour placer la voix, mais qui ne sont pas des micros de studio comme le Shure SM7B dans lequel je vous parle, et qui vous permet de bien profiter de ma belle voix, n'est-ce pas? Donc ça donne un son très téléphone comme ça, et donc du coup ça fait un effet qui pouvait être tout à fait utilisé. L'album Face Value, voilà, ok. À quand des petites compositions, car tu as un jeu funk et je te vois bien faire des compositions. Alors c'est Or qui me dit ça. Alors écoute, un jeu funk, alors c'est très gentil, mais je pense pas du tout avoir un jeu funk. Moi, je suis très très mauvais à la main droite. J'ai pas une main droite très top et je trouve au contraire que le jeu funk, faut franchement avoir. Alors je suis capable hein, de faire semblant, hein, de faire illusion. Si je vous joue à peu près le seul riff un peu funk que je connais de Chic, ça nous donne ça. Là, j'ai pas la reverb, donc du coup c'est un peu seco. On va se mettre un peu de reverb. Voilà, donc ça c'est le truc que je sais un petit peu escroquer comme ça, mais honnêtement, t'écoutes Nile Rodgers sur Chic, enfin tous les grands guitaristes de funk. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une interview avec Marc Lethierry, qui est un des guitaristes qui joue avec Snarky Puppy. Et là, au niveau guitare funk, c'est autre chose, hein. C'est quelque chose d'assez monumental. Et l'interview d'ailleurs que j'ai publiée de Marc, je l'avais déjà rencontré en 2018, non 2017 c'était, en 2017 au NAM. Et donc on a refait une interview là que j'ai publiée en avril, enfin ce mois-ci donc, au début du mois. Voilà, et parce qu'il vient de sortir un album qui s'appelle The Baritone Session Volume 2. Et où il joue de la guitare baryton. Et donc, top. Et là, quand on parle de funk, voilà, là, ça cause, c'est franchement terrible. Donc, voilà. Mais par contre, des petites compositions, j'en ai, hein, des petites compositions, des morceaux. Il y a des morceaux que j'ai un peu sous le coude. Un jour, il faudra que je prenne un peu le temps, peut-être, de les enregistrer. Ensuite, bon, honnêtement, moi, je prends mon plaisir dans le peu de guitare que je peux jouer quand je fais des tests de matos, etc. Ou évidemment, je m'éclate totalement quand je fais des interviews de musiciens. Mais mon métier, enfin le métier que j'ai appris en démarrant la chaîne guitare, c'est celui de journaliste, de faire parler les gens. Donc après, j'essaie de me garder en forme, de ne pas être trop nasbrock la guitare. Surtout que j'ai envie de plus en plus de jouer avec les gens que je fais venir. Alors non pas pour me mettre en valeur, de toute façon ça serait bien ridicule vu le calibre des pros que je fais venir, mais par contre pour pouvoir avoir quelque chose peut-être genre un peu de chronique, pédago, dire bah tiens, est-ce que tu peux me montrer un plan pour que voilà, en 5 minutes je sois capable de sonner comme toi. Évidemment, on est bien d'accord, hein, ce qui est complètement impossible, mais ça pourrait comme ça créer une sorte d'interaction. Donc, je ne sais plus si j'en ai déjà parlé, mais j'ai déjà fait trois chroniques avec Martin Giovanni dans ce sens-là, et ça sera à venir en publication très bientôt. Alors, Martin Giovanni de guitareimprovisation.com. Qui est un excellent pédagogue et qui est venu et qui. Alors, j'étais pas au courant des trois thèmes qu'il a abordés. Et du coup, bah, je les ai découverts devant les caméras pendant l'enregistrement. Donc, du coup, je suis un peu, là, encore une fois, vraiment pour de vrai, le candide de service pour expliquer. Enfin, pas pour expliquer, justement, pour comprendre ce qu'il me dit puis essayer de rejouer. Et quand j'ai fait le montage de la vidéo, j'ai trouvé que ça marchait franchement super bien. Enfin, en tout cas, que c'était intéressant. Et du coup, plutôt que de regarder un méga pro vous expliquer un truc, bah, vous voyez un amateur éclairé, mais un amateur quand même, galérer à essayer de comprendre ce qu'il fait, le jouer en même temps. Et du coup, ça donne quelque chose qui est pédagogiquement et assez intéressant. Donc, ça me permet d'ailleurs de reboucler à la question de Kenan par rapport à la basse short scale. Voilà, je pourrais aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, me retrouver dans la situation où quelqu'un va vouloir, je lui dire, bah tiens, est-ce que tu peux jouer quelque chose? Il va me dire, oui. Alors, en général, quand je fais venir un musicien, je les fais jouer tout seul, parce que du coup, ça donne un côté un peu solo qui est vachement bien. Ça, je vais continuer de le faire. Mais je pourrais très bien aussi essayer de jouer une petite basse, une petite ligne de basse toute simple. Pour accompagner, pour lui faire un petit tapis sur lequel le musicien pourrait jouer. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, etc., des choses que vous voudriez savoir avant que je lève la séance? Donc, je ne peux que vous encourager, évidemment, à regarder. Donc mercredi dernier, j'ai eu le plaisir d'avoir Laurence M et Joël Gombert qui sont venus ici au showroom, qui ont fait un très beau concert en direct, qui ont joué plusieurs morceaux. Et j'ai d'ailleurs publié hier le concert. Enfin, non seulement le concert, il était déjà en ligne, parce qu'il était en replay sur YouTube, sur Facebook, etc. Mais j'ai fait le remix donc des pistes que j'avais. Et donc, les 6 morceaux qu'ils ont joués, ils sont disponibles maintenant sur YouTube, librement et gratuitement, parce que c'est quand même un peu normal, vu que c'est leur musique. Voilà, donc ça c'est à retrouver sur la chaîne guitare.com ou sur la chaîne YouTube de la chaîne guitare, évidemment. Voilà, les prochains événements, écoutez, il y aura évidemment un nouveau live vendredi prochain, qui est plus le live en mode qui est un peu plus structuré, avec des rubriques, des extraits de vidéos, etc., qui est donc pas tout à fait, enfin, qui est même très différent du format du dimanche soir, où là, c'est en mode, eh ben, écoutez, posez vos questions, je vous écoute, et ça me fera plaisir d'essayer d'y répondre quand c'est possible. Et puis, quand c'est pas possible, bah, ça me permet parfois de rebondir sur des sujets qui sont intéressants. Alors j'ai Kenan qui me dit bravo pour ce concert avec Laurence et Joël, le son était top. Alors ça merci, ça fait plaisir. Ça doit être un sacré boulot, mais le résultat est là. Vivement le prochain. Eh ben écoute, vivement le prochain. Alors oui, c'est vrai que c'est beaucoup de boulot. Après, vous avez pu voir que je commence à avoir pas mal de matos ici au showroom. Donc après, encore une fois, ici c'est pas un studio, même si ça m'arrive d'enregistrer des sessions, c'est toujours dans le cadre des interviews que je peux proposer. Mais de fait, entre le matos guitare, la console de mixage, quelques micros, évidemment les caméras et les lumières. J'ai tout ce qu'il faut pour faire des concerts en direct. Alors, le showroom n'est pas une pièce qui est gigantesque, hein, mais ça permet d'y accueillir des concerts en direct. Donc, les concerts qu'il y a eu jusqu'à présent, il y a eu donc Roxane Felici et Théo Cormier qui ont ouvert le bal, c'était le 3 mars dernier, donc un concert en duo, donc deux guitares, deux voix, que honnêtement c'était top moumoute. Le 1er avril, il y a eu Tiffany Doucet qui est venue faire un très beau concert, juste guitare-voix, magnifique, là aussi moi je me suis régalé, et donc là, la semaine dernière, tout récemment, c'était avec Laurence M et Joël Gombert, donc un chouette moment. Et bah oui, j'espère. Alors pour l'instant, j'en ai pas d'autres au calendrier. J'espère que ça va se débloquer. J'ai proposé à pas mal de musiciens. Tous les musiciens à qui j'ai proposé sont plutôt enthousiastes à l'idée. Après, en ce moment, pour raison de confinement, de limite des 10 km, etc., c'est un peu compliqué d'organiser ça. Mais j'ai quelques dossiers sur le gaz. Donc j'espère que ça pourra se faire très très bientôt. Alors, et dans tous les styles, là il se trouve que ça a plutôt été chanson, etc. Mais j'ai des contacts plutôt jazz, quelqu'un qui pourrait venir tout seul ou soit deux guitares jazz ou alors guitare et basse, ça pourrait fonctionner. Finger picking aussi, j'ai des dossiers sur le feu, quoi. Voilà. Alors, Tyler qui me dit salut Pierre, bientôt Tyler and the Crew en concert sur la chaîne guitare duo Lap Steel et guitare voix. Ah bah écoute, moi carrément partant Tyler. Donc c'est un musicien que j'avais fait en interview il y a quelques temps. C'est d'ailleurs une interview qui est toujours hein, dans le calendrier de publication, hein, Tyler. Donc t'inquiète pas. J'en profite d'ailleurs pour expliquer que j'ai toujours, enfin sur la chaîne guitare, environ 3-4 mois de publication qui sont programmées en avance, quoi. Donc, il y a parfois des interviews que je peux faire à une date T, et puis ça va être 3 semaines, 3 mois ou bien plus plus tard que je vais publier l'interview. Donc, Tyler, honnêtement, si t'as envie de, si ça te tente l'expérience, moi je suis game. La seule contrainte que j'aime, c'est au niveau espace et au niveau technique. J'aurais bien du mal à gérer un groupe au complet. C'est impossible ici de mettre un batteur. En termes d'espace, on peut être 3, mais pas beaucoup plus que ça. Enfin, c'est bien. Donc, ça veut dire que c'est soit des artistes solo, soit duo. Mais lap steel, guitare-voix, honnêtement, moi, je suis partant. Et puis, j'avais bien kiffé le EP que tu m'as fait écouter, sur lequel on avait, sur lequel je m'étais basé pour préparer l'interview. Donc, carrément, carrément partant. Voilà, donc si vous êtes musicien et que ça vous intéresse de faire des concerts en direct, contactez-moi et puis on discutera. La manière dont je vois les concerts en direct, c'est que, comme je dis toujours, j'essaie de faire partie de la solution, pas du problème. Donc, je veux que ça soit des choses qui soient relativement courtes. Donc, moins d'une demi-heure, 20, 25 minutes, c'est très bien. Ça a été le cas des trois concerts que j'ai organisés jusqu'à présent. Et surtout, que je veux que ça serve pour les artistes en termes de promotion. Ce sont des concerts qui sont mis en ligne, diffusés gratuitement sur Facebook et ensuite après sur YouTube avec le son remixé. Alors, ça représente beaucoup de boulot pour moi, mais je vais évidemment pas, enfin en tout cas c'est le choix que j'ai fait, je vais évidemment pas mettre la musique des musiciens que j'accueille ici derrière l'abonnement payant de la chaîne guitare. Ça serait pas tellement cohérent. Donc du coup, tout ça pour dire que il faut que ça soit utile dans le cas d'une promotion d'album ou pour reparler d'un projet, etc. Voilà, donc c'est ça un peu le but du jeu. Et la manière dont ça se passe, en général, je fais ça le mercredi, le jeudi soir, et donc de 19h à 19h30, et ensuite, le temps de repositionner les caméras, on fait une interview, cette fois réservée aux abonnés de la chaîne guitare, une sorte de débrief à chaud du concert. Donc on l'a fait les trois fois, que ce soit avec Roxane et Théo, avec Tiffany, et puis là, cette semaine, avec Laurence M et puis Joël Gombert. Donc c'est sympa, parce que on est tous un peu plus cool parce que voilà, on n'a plus le stress de la diffusion directe, on est juste là à faire les marioles devant le micro et c'était des chouettes moments. Donc ça, moi, je suis hyper content de ça. Je voulais le faire déjà en 2020 et puis évidemment pour cause de confinement, bah, c'était un peu compliqué à faire. Là, ça commence à se mettre en place, donc voilà, j'espère, enfin c'est pas j'espère, je suis sûr qu'il y en aura d'autres. Un petit coup de promotion sur la chaîne guitare. Donc la chaîne guitare, hein, pour ceux qui l'ignorent, c'est le Netflix de la guitare. Donc si vous voulez vous abonner, vous allez sur lachaîneguitare.com, vous cliquez ici sur la rubrique qui est marquée abonnement et en gros, hein, et on va faire très simple, il y a deux formules. Il y a une formule à 6 € par mois qui permet d'accéder à la totalité du catalogue de vidéos. Et la deuxième formule est soit payable par mois, 10 € par mois, ou alors un an, 120 € par an, et ça permet d'accéder non seulement à tout le catalogue, mais aussi au forum. Et je vous vois là, il y a plusieurs abonnés qui sont en train de regarder ça, donc n'hésitez pas à dire à quel point vous kiffez d'être abonné. Ça permet de discuter chiffon. Donc le forum privé, il existe sous deux formes, sous la forme d'un groupe privé sur Facebook et aussi sous la forme d'un forum auquel les abonnés ont accès, où ça discute chiffon non-stop sans avoir les problèmes de trolls et de trolls et qu'on a trop souvent sur les forums publics où les gens passent plus de temps à s'échanger des noms d'oiseaux qu'à discuter de leur passion. Et si vous payez sur un an, et ben à ce moment-là, je vous envoie un coffret cadeau avec un jeu de cordes, un t-shirt de la chaîne guitare, un CD, il y a pas mal de goodies, tout ça, tout ça. Voilà, et c'est cet abonnement qui permet ben, au projet qui est la chaîne guitare de continuer d'exister. Moi, c'est un travail sur lequel je bosse à 100%, voire 110% de mon temps sur la chaîne guitare. Vous avez devant vous à peu près 99% des forces vives de la chaîne guitare. Il n'y a pas d'équipe derrière la chaîne guitare. Parfois, je reçois des mails où les gens me disent: Ah ouais, salutations à toute la chaîne guitare, bravo pour ce que vous faites. Alors, je me retourne. Je dis ah bah oui non mais en fait je suis encore tout seul donc voilà et 100% des revenus de la chaîne guitare proviennent des abonnés de la chaîne guitare. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc il n'y a pas de publicité, hein. Si je vous montre là le site web, encore une fois, il n'y a pas de bannière acheter plus blanc que blanc, acheter telle lessive ou acheter telle guitare ou telle marque. Voilà, il n'y a pas de. C'est comme ça que j'ai voulu construire le média. C'est un média qui est complètement indépendant, ou plutôt qui n'est dépendant que des abonnés qui soutiennent le principe de la chaîne Guitare, ce qui me permet d'interviewer qui je veux quand je veux. J'ai pas de pression des maisons de disques ou de tester le matériel que je veux et d'en dire ce que je veux, hein, parce que voilà, on va pas se le cacher, quand on touche de la pub d'une manière directe ou indirecte, forcément il y a des liens et c'est tout à fait normal, et il y a des gens qui font ça très bien, mais forcément ça a un impact, et d'avoir une ligne éditoriale donc qui est complètement indépendante. Ou encore une fois, qui n'est dépendant que des abonnés. Si je fais du contenu qui est intéressant, eh bien les gens continuent de s'abonner, se réabonnent et en parlent autour d'eux. Si je fais de la merde, eh bien les gens se désabonnent. Voilà, c'est aussi simple que ça, ça me paraît relativement vertueux. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente semaine. Continuez à bien jouer de la guitare, à écouter de la musique. Restez chez vous, portez vos masques, restez dans la limite des 10 km. Tout ça, on espère que tout ça, ça sera un peu plus relaxé du string là d'ici quelques semaines et qu'on pourra se revoir sur des salons, sur des concerts, etc. Pour ma part, les prochains salons que j'ai sur le radar, c'est plutôt le mois de septembre. J'ai pas l'impression qu'il va se passer grand-chose là. Cet été, mais tant mieux si je me trompe. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye.